Claude François.
RVE, il est 10h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour. Peur sur la finance, risque majeur, impact négatif, inquiétude. Les ministres des Finances et les banquiers centraux des pays du G20 se sont réunis ce week-end au Japon avec anxiété en constatant les tensions commerciales et leurs retombées sur l'économie mondiale. Seule petite voix dissonante, celle des États-Unis, persuadée que l'offensive qu'ils mènent contre la Chine sera salutaire pour tout le monde, à condition bien sûr qu'elle débouche sur un accord. Mais les grands argentiers craignent une escalade de cette guerre des échanges. Le ministre japonais Taro Aso, qui préside cette réunion à Fukuoka, a mis en garde cette nuit contre une érosion de la confiance des marchés si l'incertitude persistait. Tranchante avec ce pessimisme, Washington et Mexico semblent baignés dans le bonheur après l'accord conclu hier sur l'immigration. Un accord trouvé sous la menace américaine de taxer tous les produits mexicains dès demain si le Mexique ne faisait pas de gros efforts pour contenir les méchants migrants. Donald Trump y voit la validation de sa manière forte et les autorités mexicaines soupir d'avoir évité une grave crise économique. Le président de gauche, Andrés Manuel López Obrador, AMLO pour les intimes, a salué cet accord devant des milliers de sympathisants rassemblés à Tijuana, c'est à la frontière américaine. Trois héros décorés à titre posthume. Emmanuel Macron a décidé de nommer les trois bénévoles de la Société Nationale de Sauvetage en Mer chevaliers dans l'Ordre National de la Légion d'honneur. Les trois sauveteurs ont péri vendredi au large des Sables d'Olonne en Vendée alors qu'ils tentaient de porter secours à un chalutier en difficulté en raison de la tempête Miguel. Les trois victimes avaient 28, 51 et 55 ans. Martin Baumer descend d'En Marche. Le délégué général des Jeunes avec Macron, les JAM, va démissionner car il a l'intime conviction que les responsabilités politiques doivent être renouvelées. Les 30 000 adhérents de cette organisation voteront en ligne début juillet pour élire une nouvelle direction. Et puis il y avait un truc, il y avait surtout un Turc sur le chemin des champions du monde de football hier soir en Turquie. L'équipe masculine de France affiliée est abattue ce chemin 2-0. Bonne journée.
C'était votre flash info sur RVE et à présent je vous propose de voir ce que la météo nous réserve pour aujourd'hui avec des maximales qui iront jusqu'à 24 degrés côté température et une journée ensoleillée qui va faire beaucoup de bien. À présent c'est votre émission Tribune Sport présentée par Philippe Carnus jusqu'à 11h. Très belle écoute et très bonne journée sur RVE.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
Eh ben oui, bonjour à toutes et à tous, hein, en ce dimanche de Pentecôte, ravi en tout cas d'être avec vous. On va ce matin être encore très diversifié au niveau de nos activités donc sportives. On va d'abord recevoir ceux qui, dans quelques heures, vont prendre l'avion pour les USA. Et les championnats du monde de force athlétique, ce sont nos amis de la section de Bonnel, emmenés par Michel Sorenzo, ami de la section force athlétique. Michel, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors, dans quel état d'esprit êtes-vous, comme ça, quelques heures avant de prendre l'avion pour ces championnats du monde?
En ce moment, on est en plein dedans, hein. on est super chaud, il n'y a pas de problème là-dessus.
Ouais. Pas trop de stress?
Ah si, mais le stress, il sera encore plus le jour même.
Très bien. Allez, salut Patrick Tellier. Lui aussi s'apprête peut-être à nous ramener un titre de champion du monde.
Bah, je vais essayer de défendre mon titre. Oui. C'est bah tout oui. Ça. Et puis non, je suis assez, disons, prêt. Et puis on a encore deux entraînements à faire. Et puis je pense que on commence à rentrer dans notre bulle.
Bah oui, c'est ça la difficulté.
Et puis on va attendre l'échéance.
Très bien. Avec nous aussi Philippe Boudot. Salut Philippe.
Bonjour.
Alors,
bonjour
à tous. Prêt aussi pour ces championnats du monde?
Prêt, je dirais un peu fébrile parce que j'ai une tendinite à l'épaule gauche. Donc en ce moment, je suis en dessous de mes performances. Mais bon, on va faire tout ce qu'il faut pour que ça marche.
Et puis je l'ai dit, une émission très diversifiée, hein. C'est le but de cette émission Tribune Sport. Alors on accueille ce matin un coach canin qu'on avait rencontré sur Dourdan pour nous parler du sport canin, c'est Stéphane Renaud. Stéphane, bonjour.
Bonjour, bonjour Philippe.
Ouais.
Bonjour
tout le monde. Merci d'avoir répondu à notre invitation parce qu'il y a du sport canin, ça existe.
Bah, c'est moi qui vous remercie de nous permettre de nous exprimer. C'est ça.
Voilà. Et puis on reviendra naturellement sur le prix RVE qui s'est disputé il y a 15 jours à l'hippodrome du Rambouillet et donc qui a été gagné par Abrivard. On y reviendra au cours de cette émission. Allez, on va tout de suite donc, avant de les laisser libres hein, pour prendre l'avion, revenir sur la force athlétique de Bonnet. Messieurs, bon, ça y est, tout est fin prêt. Vous n'avez rien raté. Vous êtes à 100% de vos possibilités.
On va dire qu'on y est. Pratiquement à 100%.
Oui.
On va en essayer. Hein.
Oui.
Faut pas oublier qu'on n'est pas, on n'a pas 20 ans, hein, mais on est tous des vétérans ici en ce moment. Hein. Mm-hmm. Donc, bah, on fait le maximum pour essayer d'être prêt le jour J. Quoi.
Alors, vous nous avez envoyé les résultats tout au long de la saison qu'on a communiqué. Finalement, les résultats sont bons. C'est bien. Vous êtes dans une bonne dynamique.
Tout à fait. Oui. Nous avons passé les qualifs, quart, demi-finale et championnat de France, hein, qu'on a bien réalisé. Hein, puisqu'il y a eu des records de France qui sont tombés. Mm-hmm. Donc, ça, c'était la préparation. Et maintenant, on est à fond sur les championnats du monde. C'est vraiment. Là, c'est notre objectif de cette année, hein, de toute façon. Hein.
Alors, on se connaît bien. On vous a souvent reçu à ce micro. Combien de championnats du monde à votre actif?
Moi, j'ai démarré en 2010 ou en 2011, je crois. 2011. Mm-hmm. On était aux États-Unis.
Oui, déjà.
Ouais, j'ai déjà fait un championnat du monde aux États-Unis. Bon, j'avais passé un 3 bars, mais raté 2 sur 3. C'était mm-hmm. super chaud.
Alors, comment on aborde là, parce que finalement, ce sont des championnats du monde, vous en avez vu d'autres. Comment on les aborde peut-être plus sereinement que les années passées?
Je crois qu'on est un petit peu plus serein qu'au début. Hein.
Oui.
Voilà.
Oui.
C'est vrai que par
ça,
rapport.
C'est l'expérience.
Voilà, c'est, non, voilà. Mais c'est ça. Les tout premiers, on était super stressés. Le problème des États-Unis en plus, c'est que les poids d'entraînement ne sont pas en kilos, c'est des pounds. Donc à chaque fois, il faut qu'on fasse des conversions. Alors si on est coaché autour de nous, ça va aller, mais si on doit compter nos poids, ça nous pose beaucoup de problèmes. Quoi. Mm-hmm.
Non, nous, c'est toujours un championnat du monde, mais toujours différent. Et là, maintenant, c'est plus dans la technique qu'on aborde le championnat du monde. Mm-hmm. Et on a énormément de repères à caler juste avant de partir.
Oui, ça a beaucoup changé en 10 ans.
En 10 ans, oui, ouais. Déjà, nous aussi, on a beaucoup changé.
Oui, bien sûr.
Mais avec des meilleures performances, c'est ça qui est contradictoire. Mm-hmm. Et sinon, on s'améliore, c'est vrai, d'année en année. Parce qu'on travaille plus dans la technicité. Et on a aussi le soutien de l'ostéopathe, on a des soutiens aussi alimentaires. Et puis, on ne va pas plus vite qu'il le faut. Et puis, tout va bien pour l'instant. Mmh.
Bon, vous avez ramené dans le passé des titres. Hein. Vous avez été champion du monde et champion d'Europe. Là, vous partez pour.
Pour garder mon titre.
Oui, carrément, faut
et
dire.
Et pour battre.
Ce serait une déception de ne pas le faire.
Ah,
pas
tout à fait, j'y vais pour ça. Et puis, pour battre mon propre record de France.
Ah oui. Ouais, Philippe.
Ah ben moi, je suis certainement plus stressé que mes deux collègues, puisque moi, c'est mon deuxième championnat du monde. Et l'année dernière, j'ai fait deuxième. Et cette année, je vais tout faire pour être premier. Malgré mon handicap, j'ai quand même le moral à 300% pour ramener ce titre qui me manque, puisque maintenant que j'étais champion de France, je vais être champion du monde et peut-être un jour champion d'Europe.
Bah oui. Alors, vous allez prendre l'avion dans quelques heures. Une fois arrivé là-bas, ça se passe comment? Vous allez être pris en charge, vous allez être solidaire entre vous, ça se passe comment?
On part à 5.
Oui.
On part à 5, dont 3 athlètes, et puis je dirais 2 accompagnateurs, qui sont le fils et le neveu de Patrick. Donc on compte sur eux pour.
Ça va être aussi les psychologues, ils vont
tout à fait, les préparateurs.
Vous mettre dans votre bulle.
Voilà.
C'est ceux qui vont nous passer les points, qui vont régler, parce qu'il faut penser qu'il y a une période de chauffe avant de pousser la barre qu'on nous demande. Mm-hmm. Et cette période de chauffe qui va durer une heure, c'est bien si on n'a pas les poids à soulever. Mm-hmm. Donc c'est les jeunes qui vont nous charger les barres, qui vont nous préparer, et c'est vrai que c'est super important. Quoi.
Ouais. Oui. Et puis après, chacun dans sa chambre, dans sa bulle, et là, comment vous êtes il ne faut pas vous parler là.
On est seul sous la barre, mais ce que je dis toujours, c'est un sport d'équipe. Hein. Ouais, on a besoin des copains, on a besoin de discuter, on a besoin de se. Il faut aussi une entraide. Hein.
Stéphane, vous qui découvrez la force athlétique à travers cette émission, il y a des points communs avec votre activité, peut-être de côté psychologique?
Oui, psychologique et même pratique et préparation, parce que j'ai entendu parler d'ostéopathe, etc., d'accompagnant. Dans le sport que nous on pratique, c'est un sport d'équipe. C'est aussi un sport d'équipe. Et pourtant, il y a une seule personne sur le terrain avec son chien, c'est le conducteur et son chien. Et pourtant, autour, il y a toute une équipe. Il y a les entraîneurs, il y a tout un tas de personnes qui vont aider ce conducteur à arriver au bout. Et s'il est seul, il ne fait rien, d'ailleurs. Il fait rien. Et d'ailleurs, moi, coach, si je suis tout seul, je ne fais rien aussi. Donc, c'est toujours parce qu'il y a une équipe qu'on fait quelque chose. Donc, ça se ressemble un peu aussi bien sur le plan je dirais, soins, etc. Et en même temps, sur la préparation, et le fait que ça doit être réfléchi.
Ouais, il y a toujours des personnes de l'ombre, dans l'ombre, qu'on voit jamais.
Bien sûr.
Comme les ostéos, les kinés, on les voit jamais, mais c'est vrai que c'est super important. Quoi.
Ouais. Oui, et puis il faut faire le poids, donc il faut faire attention. Parce qu'on mange. Ça, c'est la difficulté.
Ça, c'est un peu notre souci. C'est notre souci, parce que le poids de compétition n'est pas notre poids de tous les jours. Hein.
Oui.
Moi, je tire en moins de 82,5, il faut que je fasse 82. Généralement, je fais 84, 85 kilos.
Et là, c'est bon, le poids est bon.
Là, je suis à 82,1.
Quelques heures avant de prendre l'avion.
Oui, je suis au poids.
J'ai 500 grammes à perdre encore. Mais bah, ça va le faire.
Bon, faudra aller courir, faudra boire un peu.
J'espère pas. J'espère pas.
Non. Bon, il va perdre dans l'avion, je pense.
Oui, ouais, il va perdre dans l'avion.
Patrick,
la peur d'avion.
Patrick, il perd bien la nuit.
Ouais,
il s'en mitoufle dans ses couvertures, il suit un bon coup et puis il perd ses 300-400 grammes.
Il faut être au poids quelques jours avant, enfin même, mais c'est le mieux, c'est une semaine avant, parce que perdre du poids, de l'eau, mais ça joue sur les perfs. C'est bien être au poids un petit peu avant quand même.
Non, mais 500 grammes, c'est.
Ouais, 500 grammes, c'est pas grand chose.
Donc les championnats vont commencer et là, ça va être une ambiance de folie. On peut imaginer tout le business qui va y avoir côté américain.
Surtout aux États-Unis.
C'est
un truc qu'ils aiment bien, la force, c'est leur truc.
Ouais, c'est quoi? Il y a des Pumper Girls, il y a.
Oh, je crois. En 2011, on en avait
dans un casino. C'est dans une
salle. Bah, un grand gymnase, on ne sait pas trop, on ne connaît pas bien. Il y a, en 2011, on avait tiré dans un théâtre. C'était super bien. Il y avait 1000 personnes dans la salle. C'est extraordinaire.
Avec des ambiances de,
de
supporters.
La musique, il y a tout ça. Quoi. C'est
les
bien.
Médias, surtout les médias. Oui. Il y a 4 chaînes de retransmission.
Incroyable.
Eux, ils filment en direct. On passe sur toutes les chaînes locales pendant près de 2-3 jours.
Ce
qu'on ne fait pas en France. C'est le problème. Les moyens ne sont pas les mêmes.
Donc, avec beaucoup de supporters, vous allez avoir des accompagnateurs. Certains vont peut-être venir. Le club de Bonnel, là. Comment on vit ça du côté de Bonnel? Tout un village,
c'est un peu le regret. Parce que je pense qu'au niveau des mairies, on n'est pas très soutenu, que ce soit Rambouillet. On a l'impression qu'on est dans les fédérations parce qu'on est vétéran. Peut-être le fait d'être vétéran, je pense. On n'est pas des jeunes de 25, on ne va pas aux Jeux Olympiques, on ne fait pas tout ça.
Mais vous ramenez des titres de
champion. Le vétéran, c'est toujours mis un petit peu à part, on va dire.
Moi, je me pose la question s'il existe bien un service des sports à Rambouillet.
Oui, la question elle est ouvertement posée. Vous les avez contactés pour avoir des aides, être accompagnés.
Oui, mais bon, moi, ça, des fois, on attend un peu le retour. Mais c'est tout.
Et s'il y a des titres de champion du monde, est-ce qu'il y a une petite réception organisée par
Bonnel?
Bonnel, on l'a fait.
Bon, vous savez ce que vous faites, si vous êtes champion du monde, à nouveau, vous nous ramenez, vous nous montrez vos médailles et puis vos maillots. Parce qu'il faut dire qu'il y a une remise officielle, marseillaise,
ça. Il y a la marseillaise,
Dans quel état d'esprit on est quand on monte sur le podium? On doit avoir la chair de poule, quand même.
La chair de poule, on a
la peur, on peut le dire.
Surtout quand on a assez réussi une belle barre.
Et puis surtout quand on sort avec le titre.
Quand on part avec un titre, c'est important, quoi.
Et avant d'entrer une compétition, dans la compétition, entre vous, vous êtes comment? Entre concurrents, il y a un peu d'intox, il y a un peu de bluff, il y a un peu
d'intimidation,
comme pour un ring de boxe, par exemple.
Il y a une grosse entraîne entre les compétiteurs. Tous les athlètes sont là. Alors bien sûr, on se surveille. Si on commence à voir la personne qui va être dans la même catégorie et qui pousse les mêmes poids, il va y avoir une grosse surveillance, justement, de nos coachs qui sont à côté de nous, pour aller voir quelles sont les barres qu'il a demandées, parce qu'on a le droit à 3 essais. Donc nous, si on réussit le premier, on va voir quelle barre il a demandé en deuxième barre. Ça sert à rien de demander 20 kilos de plus, il a demandé 5. Voyez.
Ouais, c'est un peu comme le saut à la perche.
On joue au début, on joue un titre.
Il y a un peu d'intox, quand même.
On joue le titre, on joue pas forcément les performances au départ. Après, une fois que la première barre est passée, la deuxième, on peut peut-être se lâcher. On y arrive. Mais au début, c'est le titre qu'on vise, c'est sûr.
Oui. Il y a combien de titres de champion du monde de remis?
Il y en a un par catégorie de poids.
C'est-à-dire, ça fait combien? Ça fait au moins une catégorie de poids ou
de poids, ça démarre à moins de
47
kilos et ça finit à plus de 145 kilos.
D'accord. Et il n'y a que pour les hommes ou...
Ah non, il y a hommes et femmes.
Là, il y a au moins 25% de femmes.
Et il y a deux catégories, équipées et non équipées.
Oui, voilà. Alors, on peut peut-être rappeler ce que c'est. Moi, je le sais, mais pour le grand public.
Non équipé, on a une combinaison, un t-short et puis des baskets en val. On a le droit à la ceinture et aux des bracelets de force, les bandes de poignets. Et en équipé, on est obligatoire d'avoir un gilet de compétition. Ce gilet protège. Parce qu'arrive à dire que quand on est vétéran, ça protège les épaules, mais ça nous donne une performance supérieure. Alors, il y en a qui l'utilisent plus ou moins. Il y en a qui prennent 20 kilos, 40 kilos de plus. Ça dépend. Mais on n'est pas du tout classé dans la même catégorie de personnes.
D'accord. On va pouvoir vous suivre sur les réseaux sociaux pendant la compétition.
On espère avec les jeunes.
Ça va se passer comment alors?
Sur Facebook, carrément.
On va voir si on peut se mettre en live directement.
Ça sera en live mondial. Ça sera super.
Ouais, ouais. Très bien. Ouais. Hein.
Bon, bah, écoutez, merci. On va vous rester avec nous quand même hein, pour cette émission. Ouais. Et puis, on va vous souhaiter bonne chance. Et surtout, donc, ça fait combien de titres pour vous, Michel, si vous êtes champion du monde?
4 ou 5.
4.
Moi, ça sera mon quatrième.
Quatrième aussi.
Philippe, moi, ce sera mon premier. J'espère.
Bon, quoi qu'il arrive, c'est champagne après?
Ah, c'est champagne. C'est sûr.
Bon, il était quand même vice-champion du monde l'année dernière. À Malte.
Je sais bien. Après, il y aura un petit break. Et puis, paradoxalement, les championnats d'Europe après les championnats du monde.
Bah, ouais, tout à fait. Parce que les pays ne peuvent pas organiser les championnats d'Europe avant monde. Mais moi, je ne pense pas que je ne suis pas disponible tout en septembre. Ça pose problème avec les congés.
Oui, mais où les championnats d'Europe?
C'était Amsterdam.
Amsterdam. Ça oblige à s'entraîner pendant les vacances. Ça, c'est pas facile.
Il y a des concurrents que vous redoutez plus que d'autres que vous avez déjà.
Cette année, c'est les Américains.
Ouais, chez eux, oui,
ils sont en force, ils sont chez eux. Je crois que la moitié des plateaux, c'est américain.
Ouais, ils sont 51.
Là. Sur 100 personnes, il y a 50 américains.
Ouais, quand on connaît le patriotisme américain,
oui, ils sont à fond.
Ils vont vouloir réussir ces.
Des Français en tout. Mondiaux, hein. L'équipe de France, on est que 11. Hein.
Mais nous, on craint quand même moins les Américains dans nos catégories. Parce que moi, je suis dans la catégorie moins de 75 kilos, comme Patrick. Un Américain qui pèse moins de 75 kilos, il n'y en a pas beaucoup.
Donc... c'est pas les plus courts.
Non, mais c'est, je veux
non,
dire,
mais c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus. Ils sont entre 100 et 145 kilos.
Non, je veux pas dire qu'ils sont gros, mais ils sont déjà grands. Ouais, ils font déjà 1m85, 1m90, bah, ils font tout de suite 80, 85 kilos de base. Quoi. Donc, on les craint moins, quoi, dans ces catégories-là. On craint plus les Italiens et puis les Moldaves dans nos catégories.
Oui, d'accord. C'est plus les Européens qui peuvent aller vous concurrencer. Mmh. Et par exemple, le continent asiatique, il est fortement représenté, peut-être compétitif.
Il n'est pas du tout.
Paradoxalement.
Il n'est pas affilié à cette fédération mondiale.
D'accord.
Non, du tout. Mmh. Ouais. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas venir. Hein. C'est ouvert à la fédération. D'accord. Après, c'est une histoire d'organisation. Ouais.
Alors, juste un petit mot, justement. Vous êtes à la section de Bonnel, section Force Athlétique. Vous avez des jeunes derrière qui arrivent, qui veulent prendre relais.
On en a quelques-uns. Oui. On en a emmené un jeune, Kevin, il y a quelques années, au championnat du monde, qui avait fait premier. Hein. Oui. Un jeune qui avait 19 ans. Hein.
Oui, je crois que je l'avais vu d'ailleurs.
Oui, Kevin. Ouais. Donc, mais le problème, c'est les jeunes font les études. Et ils arrivent à s'entraîner, et puis d'un seul coup, on ne les voit plus pendant un an ou deux ans, et ils reviennent. C'est compliqué. Hein.
Ouais. Oui, parce que vous allez quand même nous dire combien d'heures vous passez d'entraînement par semaine
pour... 3 fois par semaine, 6 heures par semaine. Lundi, mercredi, vendredi.
Et Calvé de la Fonte, non. Il y a un peu de footing aussi.
Tu oublies de faire du cardio un petit peu pour tenir le poids, mais voilà. Et le problème, c'est que l'entraînement, après, on le diminue un tout petit peu quand on approche des échéances. Bah, on ne peut pas se permettre de faire des grosses séries après pour pousser une barre.
Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut bien se connaître aussi. Hein.
Ah, bah, bien sûr.
Ça, c'est la base essentielle dans votre sport.
On se connaît parfaitement.
Oui, voilà. C'est ça.
Disons qu'on débute pas, on n'a pas 20 ans. Quoi. Les 20 ans, ils sont tout fous un peu et ça attaque à fond. Nous, on a déjà quelques années d'expérience en salle quand même. Donc déjà, on fait attention. On sait que quand on va avoir une douleur, tout de suite, il va falloir la traiter ou soulager un peu les poids. Il va falloir faire attention.
Oui. Alors, vous pratiquez votre sport à Bonnel, au gymnase. Hein.
Tout à fait.
Vous parliez de Rambouillet. Au début, vous aviez commencé sur Rambouillet, je crois. Et puis vous n'avez pas été trop suivi, donc vous êtes parti sur Bonnel.
Tout à fait.
Bonnel, l'avantage, c'est que nous, on fait partie du foyer rural de Bonnel et on est aidé jusqu'au championnat de France.
D'accord.
Bon, ils nous payent l'hôtel, on paye une indemnise au niveau des transports. Voilà. Alors que Rambouillet Sport, moi, je me rappelle une année, quand on est arrivé la première année, on était 10 au moins. Et la somme allouée pour l'année, c'était 200 euros.
Mm-hmm. Oui, parce que ça rentre en ligne de compte. Par exemple, vous partez aux USA le billet.
On va se le payer. Il est sûr qu'en fin de compte, là, on est 11 Français à partir. Mm-hmm. Mais sur 11 Français qualifiés pour les championnats du monde, il y en avait beaucoup plus.
Ouais, ouais. Il n'y a pas de la fédération.
Au niveau d'inscription. On avait 10 euros de moins,
Vous êtes des sportifs de niveau, quelque part.
Même si on est vétérans, nous, on se considère comme des sportifs de haut niveau. Parce qu'on a un entraînement qui est fait pour, on fait attention, on fait.
Et un titre, ça ramène un peu d'argent, non?
Ah non, du tout.
Une indemnisation, le bonheur d'être champion du monde, ce qui est quand même pas.
La gloire.
Puis la passion. Oui,
c'est une passion, bien sûr. C'est une passion.
Bien sûr. Bon, vous allez signer des dédicaces dans les rues, non? De Bonnel et de Rambouillet.
Oui, de Rambouillet. Voilà. Moi, je voulais dire bonjour à Guillaume, parce que je m'entraîne une fois par semaine au CrossFit à Carrefour.
Oui.
Et il me donne son soutien pour l'entraînement.
Ouais, c'est important.
C'est important.
Merci, Guillaume. Comme ça, ouais.
Et si les jeunes, donc, quand même, en écoutant ce matin cette émission, veulent vous rejoindre, ils viennent où et quand à Bonnel?
Début septembre, on a un forum et on prend les inscriptions. Mais nous, l'avantage, c'est qu'on peut s'inscrire toute l'année dans une salle. C'est pas un problème. On aménage les prix, les tarifs. Nous, cette année, l'année prochaine, le tarif sera le même. Je peux donner le tarif.
Oui, bien sûr.
On est à 118 euros à l'année pour une petite salle. Mm-hmm. Et on peut venir tous les jours.
Et après, le matériel, les fonds, tout ça et tout,
c'est dans la salle. Oui, il n'y a pas de problème. Le problème de Bonnel, c'est qu'on pratique dans la force athlétique, on va pouvoir pratiquer que le développé couché. La salle n'est pas assez grande, on a une petite salle qui fait 40 mètres carrés, alors que la force athlétique, c'est trois mouvements. C'est le squat, soulevé de terre et développé. Mais là, il faut du matériel supplémentaire, il faut de l'espace qu'on n'a pas à Bonnel.
C'est pour ça que je m'entraîne chez Guillaume en CrossFit.
Voilà. Oui, parce que les villages avoisinants.
Il n'y a pas de ça, il n'y a rien.
Il n'y a pas de ça. Donc
il y a Saint-Arnoux, il y a une grande salle,
c'est une salle importante.
On s'est entraîné, on avait un coach avec René Cabellet, qui nous a entraîné pendant des années. Et on s'entraînait à Saint-Arnoux.
On lui souhaite un coucou, là.
Ouais, bonjour à René, c'est dommage qu'il n'est pas là. Il a fait de la compétition pendant longtemps aussi.
Oui, oui. Bon, écoutez, bravo. Il y a une fin de carrière qui est programmée ou pas?
Non.
dans 20 ans.
Tant qu'il y aura le plaisir.
Non, voilà, c'est ça.
Les masters, c'est quand vous avez des anciens jusqu'à 70 ans, 65 ans?
Il n'y a pas de limite.
Il n'y a pas de limite.
En ce moment, vous savez.
L'année dernière à Malte, le plus ancien, il avait 81 ans.
À la salle, on a Philippe à la salle à Bonnel qui a commencé la musculation il y a 5 ans. Il a 72 ans. Il pousse quand même 80 kilos.
Oui. Stéphane, il fallait être rêveur.
Pourtant, c'est un gars qui pèse pas lourd.
C'est la passion, quand même.
Complètement. Puis je trouve que c'est un exemple pour les jeunes, de leur montrer que jusqu'au bout, on peut faire du sport.
Bien sûr. Et en plus, on n'a pas parlé de produits dopage.
Et même dans l'esprit.
Mais nous, on est.
Il y a un bel esprit. J'écoute depuis tout à l'heure. Il y a un bel esprit. C'est agréable à entendre. C'est très agréable à entendre.
Alors, justement, vous parlez de dopage. Bon, c'est un sport où on est très sensibilisé. Vous avez des contrôles à chaque compétition.
Tout à fait. Cette fédération-là, c'est minimum 10% contrôle. Contrôle d'urine.
Vous êtes comme ça?
Oui, ça tire à
tout
ça. C'est-à-dire
qu'il peut venir à l'entraînement.
Si vous gagnez, nous, on est affilié à la fédération. Du moment que le club est affilié à une fédération, on peut être contrôlé par n'importe qui. Tu as la FLD, l'association française de lutte contre le dopage, peut arriver. Et c'est ce qu'elle a fait il y a deux ans. Elle est arrivée lors d'un championnat de France. Il y a eu des contrôles sanguins. C'est la première fois qu'on voyait ça. Hein.
Oui. Et est-ce qu'il y a beaucoup de cas positifs entre nous?
En France, non, j'en connais pas.
Alors,
en France,
ils ont les produits pour passer à travers ou...
Non.
Alors les contrôles sont...
Bien sûr que le contrôle d'urine, c'est assez léger. Mais l'avantage, c'est qu'on se connaisse tous. Dans cette fédération, de visu, on se connaît, on regarde nos perfs sur Internet, on regarde. Si vous voyez une personne qui fait 120 et deux ans après, elle en fait 160, ça commence à se poser des questions, surtout à des âges de 60 ans. Vous voyez, nous, nos perfs, on arrive à les améliorer par la qualité technique. Vous voyez. Mais c'est pas en prenant. On voit bien, on n'est pas bodybuildé. Ça n'a absolument rien à voir. C'est la force qu'on travaille.
Et si on se fait choper, on est radié?
Radié à vie. Ça, c'est tout à fait logique.
On peut plus donc
passer la maison.
Vous voyez, moi j'ai la tendinite, je peux même pas prendre d'anti-inflammatoire.
Ah oui, ça c'est sûr que
sinon,
faut faire attention. C'est sûr que ça fait partie des produits interdits.
Alors t'as le droit de prendre la protéine, t'as le droit de prendre tout ça, les acides aminés, ça c'est pas interdit. Mais tous ces produits-là qui sont des anti-inflammatoires, tous ces trucs-là, ça pose problème.
Très bien, bonne chance messieurs.
Merci. On dira ça.
Vous nous ramenez.
Bonne chance.
On va essayer. On fait le maximum de toute façon.
Comme on dit, un gros M.
Merci.
Voilà. Merci beaucoup.
Allez, juste avant d'enchaîner sur la deuxième partie de cette émission, je voulais revenir sur le prix qui s'est déroulé donc il y a 15 jours à l'hippodrome de Rambouillet. Il y avait 20 000 euros de dotation. Eh bien, la victoire, elle est revenue au numéro 10, c'est-à-dire duel du Gers emmené par Mathieu Abrivard, qui s'est imposé devant le 1 Cotton Club de Vincent Seguin. Et la troisième, c'est Tiffany Maurice sur Bijou de Saint-O, le 8 emmené par l'autre Abrivard, Léo Abrivard, défi Pierre J, a été déclassé. On va écouter en quelques secondes le vainqueur de cette édition 2019 du trophée Herve, à savoir Mathieu Abrivard. Alors Mathieu Abrivard, deuxième victoire aujourd'hui sur l'hippodrome d'Ambouillet.
Ouais, très bien, c'est bien, c'était des chevaux qui avaient une bonne chance avant le coup, donc c'était des courses à ne pas louper. Ouais.
Comment s'est passée votre course, ce prix Herveux que vous gagnez, la course en tête?
Ouais, je suis venu aux avant-postes, c'est un bon cheval, il a bien fait déjà à Vincennes, donc aujourd'hui c'était une bonne chance. J'ai pas hésité à venir devant et puis à contrôler la course. Donc c'est bien. Il vient de gagner à Rambouillet, mais il va regagner à Vincennes. Donc c'est une bonne piste référence.
Bon, vous avez essayé déjà pas de 3 là aujourd'hui là.
Et bien, il me reste encore une cartouche, on va essayer de bien faire. Mais c'est une chance intéressante.
Ouais. Bon, vous aimez cet hippodrome à Rambouillet?
Ouais, j'ai toujours eu de la réussite ici. Donc j'hésite pas à engager mes chevaux. Et puis c'est une bonne piste, toujours bien entretenue. Donc c'est agréable pour nous professionnels de venir ici.
D'accord. Merci Mathieu. On vous laisse vous préparer donc pour la troisième course.
Merci beaucoup.
Voilà, on a pu la musique et ensuite, on passe au sport canin sur l'antenne d'Herve.
DMP Doc des matériaux du Perret. Votre spécialiste des matériaux de construction à votre service depuis 1996. Professionnel et particulier, DMP est distributeur et stockiste des grandes marques pour tous vos matériaux. Le bois au détail, le métal et l'outillage. DMP, c'est le conseil, la disponibilité et la livraison toute quantité. DMP Doc des matériaux du Perret, 10 rue Roseau au Perret en Yvelines. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à midi et de 13h30 à 18h. Ainsi que le samedi de 8h à midi. DMP Doc des matériaux du Perret, 01 30 46 30 97.
Information importante.
Vous, oui, vous qui êtes en voiture, au bureau, à la maison, là, derrière votre radio. Attention, le 5 juin, augmentation du prix de l'électricité de plus de 5,9%. Alors pensez à hachampouled.com. Découvrez ses ampoules LED, ses luminaires LED, ses projecteurs LED, ses bandeaux LED et aussi ses éclairages de jardin et terrasse pour vos soirées d'été. Hachampouled.com est joignable facilement et toujours à votre écoute. Besoin de renseignements, d'un conseil? Appelez hachampouled.com au 01 30 88 97 54. Un spécialiste est disponible pour vous accompagner dans votre commande. Hachampouled.com, c'est simple d'utilisation. Et jusqu'au 5 juin, hachampouled.com vous offre un lot de lampes LED pour votre première commande. Hachampouled.com, c'est la fête des éclairages LED tous les jours.
Hachampouled.com, 01 30 88 97 54, 01 30 88 97 54.
Il n'y avait plus cette petite flamme entre nous. Je le trouvais vieilli, terne, ennuyeux. Bref, je pouvais plus le voir. Alors je l'ai remplacé. Et celui-là, il a vraiment tout ce qu'il faut. Brillant, classe, je ne me lasse pas de le regarder.
Plafond fissuré, vieilli, peinture écaillée. Avec Creative Design, le spécialiste du plafond tendu, changez pour un plafond séduisant. Mat, brillant ou satiné, Creative Design pose votre nouveau plafond dans la journée. Sans poussière et sans odeur.
Une œuvre d'art.
Rendez-vous sur creativedesign.fr 01 58 88 21-20.
RVE 103-7.
Tu pourrais m'emmener très loin. Une vague, un nuage en me tenant la main. Tu pourrais me dire que tu as tout ce que j'attendais en soufflant sur mon cou. Emmène-moi en balade le long des quais ou en forêt.
Vivez le sport dans votre région avec RVE.
Oui, et n'oubliez pas que cette émission, vous pourrez naturellement la réécouter en podcast. Allez, on va parler maintenant de sport canin. Mais oui, ça existe. On avait parlé il y a très longtemps de chien de traîneau. Je suis ravi de recevoir Stéphane Renault. Stéphane, on s'était vu à Dourdan. Vous êtes coach canin. Il y avait eu un énorme succès concernant vos démonstrations.
Bah, écoutez, d'abord, merci Philippe de me laisser la parole. C'est super gentil.
Ah, ils sont tous les sports.
Parce qu'on n'a pas souvent la parole, notre milieu, parce qu'on est méconnu. Mm-hmm. Pourtant, on est nombreux à pratiquer ce sport. Mm-hmm. Alors, effectivement, à Dourdan, j'ai été très étonné du retour qu'on a eu. Parce qu'en fait, ça a eu un effet assez impressionnant vis-à-vis des professionnels qui exposaient, vis-à-vis des spectateurs, vis-à-vis de tout le monde. C'est sympa. Et mon équipe qui était venue avec moi pour montrer des choses, pour parler du chien, parler de l'éducation du chien, parler de tout un tas de choses qui touchent le chien dans la vie de tous les jours, dans la ville, dans nos villes et dans nos campagnes, le retour a été très 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 sympa et très très touchant de la part des gens, les messages qu'on a eu derrière, les encouragements, etc., etc. Donc ça, c'était très sympa. Ouais, c'est vrai que j'en garde un très très grand souvenir de ce qui s'est passé à Dourdan. C'était chouette.
Vous allez souvent en contact comme ça de la population à travers justement des manifestations comme des foires ou des portes ouvertes?
Non, pas assez. Je crois que pas du tout assez. D'ailleurs, les gens qui ont, comme moi, ont une expérience assez longue dans le monde canin, qui ont fait beaucoup de choses, qui ont commencé il y a plusieurs dizaines d'années, pour certains, comme pour moi, on ne va pas assez au contact des gens et aujourd'hui on le paye. On le paye parce qu'il se met en place des idées reçues sur le chien.
Il y a une fausse image, il y a une fausse idée, il y a même certaines associations qui contestent votre activité.
Ils sont assez excessives, un peu extrémistes même pour certaines. Oui. Et en fait, si vous voulez, c'est très méconnu, comme par exemple les gens qui pensent que nous on pratique donc le mordant sportif, qui pensent que ça va désinhiber le chien à la morsure alors que c'est l'inverse. Un chien qui pratique le sport canin, il est moins dangereux. D'ailleurs, il y a des études qui ont été faites, notamment par l'ERG dans les années 90, qui ont bien spécifié qu'on était un milieu qui n'était pas à problème et que nos chiens ne provoquaient pas l'accident. Mm-hmm. Parce qu'en fait, ce sont des chiens qui sont bien dans leur peau, bien dans leur corps, qui ont confiance en eux, qui ont une estime d'eux assez élevée. Et en fait, ils n'ont pas recours à la violence, ils n'en ont pas besoin du tout. Comme un être humain, en fait, comme un enfant. Mm-hmm. Un enfant qui est bien dans sa peau, qui est bien dans ses baskets, il n'a pas recours à la violence.
Alors justement, Stéphane, ça se passe comment? Pour quel type de chien avec quel type de chien peut-on pratiquer ce sport? Est-ce qu'il faut une race particulière? Est-ce qu'il faut un âge particulier?
Alors oui, à tout, dans le sens où depuis la loi de 99, qui a été faite par des gens qui connaissaient pas ce qu'on faisait, qui ont légiféré sur le chien de travail sans savoir ce que c'était d'ailleurs, c'est un peu triste, avec les chiens dangereux, notamment considérer le Staffordshire Terrier comme un chien d'attaque, c'est un peu débile, excusez-moi d'être vulgaire, mais effectivement, puisqu'on les utilise pas, ils sont pas assez bons. Mmh. Et donc, c'est pas du tout un chien dangereux pour l'humain, c'est une idée reçue. C'est complètement une idée reçue.
Il y en a beaucoup qu'on est.
Donc la loi elle m'a fait.
Ils peuvent en parler. Ouais. Hein.
D'ailleurs, aujourd'hui, on en reparlera après, mais en fait, oui, effectivement, vous avez des races qui sont autorisées au mordant et pas d'autres. Et donc ça c'est le législateur qui a défini un certain nombre de règles. La société Santa Canine a demandé au club de races de savoir celles qui se mettaient sur les rangs qui voulaient continuer à faire du mordant sportif. Donc des races, il y a des races autorisées et des races qui ne sont pas.
On peut en parler, on peut les citer, on peut
ça, vous avez le chien de berger, vous avez effectivement le leader c'est le berger belge malinois. D'accord. Dans le berger belge, il y a quatre variétés. Donc les quatre variétés sont autorisées à faire du travail. La Quenois, Groenland, Tervuren et Malinois. Vous avez le berger allemand, vous avez le Rottweiler qui a le droit, qui fait partie du deuxième groupe. Et vous avez donc comme ça une déclinaison d'une je sais plus, une quinzaine de races à peu près qui ont le droit. Les autres n'ont pas le droit. D'accord. Les sanctions sont très dures et très sévères. Vous risquez de la prison avec sursis. Et ensuite, l'entraînement doit être encadré par un moniteur qui est habilité au mordant sportif, qui a passé un monitorat et ensuite dont le dossier était soumis au préfet et pour obtenir une capacité.
Alors justement,
c'est très important, il faut que tous les entraînements soient encadrés, ça se comprend, tout ne soit pas fait n'importe comment, et ensuite vous pouvez pratiquer dans un club, dans des endroits, dans des structures qui sont agréées par la préfecture.
Alors justement, comment devient-on coach canin? Est-ce qu'il y a des filières, des diplômes à acquérir, des métiers? Alors, et puis, est-ce que ça suscite des vocations chez les jeunes?
Ah oui, j'ai énormément de jeunes qui viennent me voir, qui pensent, moi demain je vais être éducateur canin. Alors effectivement, aujourd'hui sur le marché, vous avez tout un tas de choses qui sont proposées pour devenir éducateur et comportementaliste. Et je crois savoir qu'il n'y a pratiquement aucune de ces structures qui va vous former correctement. Aujourd'hui, pour former un éducateur canin, il faut environ 3 ans. Il faut faire du terrain, c'est énorme. Et un comportementaliste, c'est 10 à 15 ans. Donc tous les gens qui se prétendent comportementalistes ou éducateurs canins, qui n'ont pas cette expérience de terrain, qui n'ont pas été encadrés, qui n'ont pas suivi pendant des milliers d'heures des chiens, qu'on leur a expliqué, parce que étant donné qu'on a affaire à des cas particuliers pratiquement à chaque fois, avec des troncs communs effectivement, l'expérience de terrain est irremplaçable. Donc c'est très long. Ça demande un investissement et j'ai des stagiaires qui viennent tout le temps pour essayer de découvrir ce métier, pour faire que ce soit des élèves de 3e ou qui sont dans des lycées à l'école, etc., qui viennent me rencontrer et je leur explique que ça va être long. Et ensuite, vous allez devoir faire du terrain, vous allez devoir donner de votre personne, etc. Et ça va être long. Donc en fait, effectivement, il n'y a pas d'Eldorado. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de chiens en France. Donc le nombre de chiens a baissé 30% en 20 ans à peu près. Et pourtant, on a de plus en plus de chiens à problème, parce que la réponse qui est donnée par les professionnels ou ce qui est fait actuellement n'est pas adaptée aux problèmes que rencontrent nos concitoyens avec leurs chiens dans la ville et dans les appartements. Et pour certains chiens qui posent problème, à peu près peut-être 10-15% des chiens, puisque la plupart des chiens sont faciles, ils naissent domestiqués et obéissants. On a sélectionné les chiens, l'être humain a sélectionné les chiens pendant des milliers d'années pour qu'ils soient à notre service et qu'ils correspondent à ce que l'on souhaite. Et donc, en fait, effectivement, la plupart des chiens naissent faciles.
Oui.
Donc, les gens n'auront pas de tutopie ni de rappel, mais correct. Mais par contre, ils vont se faire respecter de leur animal.
D'accord. Mais il y a des cas difficiles quand même.
Voilà. Et les cas difficiles, par contre, malheureusement, seuls les experts s'en sortent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai presque un appel par jour. Et des gens qui sont passés par X éducateurs ou comportementalistes et qui ont échoué et qui parfois ont même aggravé la situation, contrairement à ce qu'on pourrait penser, pas en étant violent sur le chien. Donc ça, c'est une chose qu'il ne faut pas faire, effectivement. Mais parfois, en essayant de, par la récompense, enlever une attitude agressive vis-à-vis des congénères ou de l'humain. Et ce n'est pas forcément la bonne chose à faire, parce que ça a plutôt tendance à mettre de l'huile sur le feu.
Est-ce qu'il y a un âge déterminant?
Moi, je conseille à tout le monde, commencez à 3 mois. Un enfant, il va à 3 ans à l'école maternelle. Vous avez votre chien, vous faites vos rappels de vaccination. Vous avez besoin de conseils entre 2 et 3 mois. Vous prenez conseil auprès de gens pour savoir un petit peu comment faire. Et vous commencez à 3 mois. Après, il faut faire le profil du chiot. Entre 3 et 4 mois, les gens qui ont des compétences sont capables de le faire. Le profil du chiot, il faut adapter la méthode au chiot. On peut pas faire du, faut faire du cas par cas. Après, effectivement, vous avez
c'est comme
familles.
Un sportif de niveau, c'est comme un athlète de haut niveau. Ça se gère pas forcément de la même façon. Voilà. C'est pareil pour les chiens. Hein.
Après, quand vous avez un chien qui est destiné à la compétition, le travail sera pas le même que quand vous avez un chien qui est destiné à la compagnie. C'est très différent. Mais de toute façon, dans l'instant que vous allez progresser avec votre chien, faut le faire en respectant son intégrité physique et mentale. Il faut savoir que nos sports, nous. Contrairement à ce qui peut se dire, les idées reçues sur le rendement sportif, on ne peut pas forcer le chien. C'est-à-dire que soit le chien il est volontaire et ça lui plaît ce que vous lui proposez et ça marche. Vous créez une relation de confiance et de respect qui amène à la complicité et à l'attachement. Et là, on va loin ensemble. Soit le chien, ça lui plaît pas, ça lui convient pas, il faut faire autre chose. Vous pouvez pas forcer un chien, c'est soit il peut rentrer dans cette voie, soit il y rentre pas. C'est une vocation, entre guillemets. Et après, ça demande des heures et des heures de boulot, puisque pour monter un chien haut niveau, il faut 3-4 ans.
Ouais, voilà, c'est une question que j'allais poser.
C'est le problème.
En 3-4 ans, on arrive à.
En ring, c'est 3-4 ans de travail. C'est le problème le plus dur au monde, le plus compliqué, le plus long à monter, c'est le ring.
Oui, mais je pense que c'est un sacré investissement au niveau de temps, hein, ça demande
financier.
Oui, justement, ça coûte combien?
Ça coûte cher parce que, en fait, si vous voulez, quand vous êtes passionné, vous allez monter votre chien, la première année, vous travaillez sur votre chien, dans la deuxième année, des fois, vous commencez à sortir dans les petits échelons pour arriver à 3 ans au plus haut niveau. Ça veut dire que c'est des déplacements, ça veut dire que c'est nourrir votre chien, c'est le nourrir avec une alimentation adaptée, hein, pour chien de sport, c'est voir un ostéopathe régulièrement, on parlait du suivi médical, avoir un véto généraliste qui soit sérieux, qui sache de quoi il en retourne, et ensuite après c'est aller voir des spécialistes dès qu'il y a un petit souci. Un à la tête, ça peut se blesser, etc. Il faut le réparer, il faut le soigner, etc. Et donc ça demande un investissement. Et après, en fonction si vous allez avoir un professionnel ou pas, vous devez payer vos cours ou pas vos cours, il y a l'inscription au club. Donc les clubs, eux, sont souvent pas du tout soutenus, sont pas toujours comme vous soutenus par des mairies, donc il faut payer, etc., payer les terrains, le matériel. Un costume d'entraînement, ça vaut 900 euros en moyenne. Voilà, donc tout coûte cher, quoi, en fait.
Oui, alors il y a beaucoup de clubs en Ile-de-France. Vous êtes sur la région d'Arpajon, on va le dire, on a Villers-Arpajon, c'est pas très loin d'ici, c'est dans notre zone d'écoute. Il y en a d'autres?
Vous avez au moins une cinquantaine de clubs qui vous permettent de pratiquer en Ile-de-France. C'est un sport, si vous voulez, qui est paradoxalement très méconnu du grand public et pourtant qui est très répandu. Ça veut dire qu'on a vu des finales avec plus de 10 000 spectateurs. Et donc, aujourd'hui, on a une baisse, on a une petite baisse parce que c'est dû à une gestion, je pense, politique. On est mal géré aujourd'hui. Nos fédérations ne sont pas bien gérées. Et bon, ça, c'est un autre débat. Parce que parce que les gens qui nous gèrent ne pratiquent pas. Voilà, c'est ça qui fait qu'il y a problème. Mm-hmm. Le bas blesse, quand vous n'êtes pas géré par des gens qui connaissent la discipline, qui la pratiquent, ça ne peut pas aller, c'est impossible, même avec la meilleure volonté du monde. Et donc, mais par contre, c'est effectivement assez répandu dans tout le territoire français. Et c'est quand même l'origine d'une culture cynophile très riche, qui a plus de 100 ans.
Mm-hmm. Oui, c'est une fédération française à part entière.
Oui, on est affilié à une fédération internationale, mais personne joue dans notre course. Si vous voulez, c'est un petit peu prétentieux de dire ça, mais le ring ne s'exporte pas parce que c'est difficile. Mm-hmm. Les Mexicains en font, les Américains en font, etc. Mais ils n'arrivent pas à nous rattraper, même 20 ans, 30 ans après. C'est vraiment très compliqué, c'est très long de monter, de construire un chien et d'apprendre à le faire. C'est très très long et d'être capable de faire les chiens pour les autres, parce que vous avez un coach comme moi qui va devoir entraîner les chiens des autres. C'est très très long. Il faut, comme je le disais, comportementaliste ou un grand dresseur, il faut 10 ans minimum. Oui.
Alors, quand on prend une licence, on se spécialise. Il y en a qui font les chiens de traîneau.
Alors, vous, c'est le chien de traîneau, c'est notre fédération.
Oui, c'est pour ça. Non, mais il faut
c'est un autre sport.
Il faut bien le.
Ouais. Notre sport.
Voilà. Donc vous l'avez dit, ça dure combien de temps ces chiens? Par exemple, un chien qui est en compétition, sa carrière, elle dure combien de temps? 10 ans, 15 ans?
Non.
C'est trop?
Non,
je le fais exprès.
non, c'est effectivement la moyenne, on va dire, c'est 7, 8 ans, voire 9 ans pour des chiens qui ont vraiment de grosses qualités. Donc, mon dernier chien de compétition de haut niveau, j'ai arrêté sa carrière à 9 ans et il était en pleine forme, il avait les maxi tsu, etc. J'ai choisi d'arrêter parce que j'avais peur qu'il se blesse musculairement. Mais si vous voulez. Déjà 8 ans, c'est une très belle carrière. Vous la commencez à 3 ans en général. Vous avez 4 à 5 années de carrière. Mm-hmm. Et voilà, 3 ans de préparation, 4-5 ans de carrière maximum.
Ouais. Alors, ils ont une valeur marchande, ces chiens.
Alors, les compétiteurs, paradoxalement, une fois qu'ils sont sortis avec leur chien, ils n'aiment pas trop s'en séparer. Ils s'y attachent quand même. Hein. On ne se sépare pas de son chien qui vous a mis à haut niveau. Mais c'est vrai qu'effectivement, jusqu'à l'âge d'un an ou deux, quand les chiens n'ont pas les aptitudes pour jouer à haut niveau, certains compétiteurs vont, comme on a tous des copains dans les administrations qui pratiquent aussi notre sport, on va placer le chien dans une administration qui est friande de ce genre de chien parce qu'on leur amène des chiens avec des super bases, des super qualités. Et en plus, avec une sélection génétique, ils font que ces chiens qui perdurent dans le temps et qui sont bien construits, solides dans leur tête, solides dans leur corps. Et effectivement, et comme on utilise essentiellement du berger belge malinois, qui est le meilleur chien de travail au monde, certains chiens, quand ils ne sont pas capables d'aller à haut niveau, vont aller dans des administrations.
Stéphane, il y a un duo, c'est-à-dire le chien, il marche avec un maître, s'il change de maître, il n'a plus les mêmes résultats.
Alors, il faut savoir que là, je parlais tout à l'heure, les chiens ne nous aiment pas. Il n'y a pas de sentiment amoureux.
Il n'y a pas de complicité.
Si, la complicité, c'est autre chose.
Oui, parce que,
la complicité amène à l'attachement. L'attachement, c'est plus fort.
Oui.
Si on regarde bien les sentiments amoureux, ça va, ça vient. On peut être amoureux et se désaimer. Par contre, l'attachement, c'est quelque chose de très très fort. Si vous êtes attaché par un objet que vous le perdez, ça vous rend dingue. Vous cherchez votre objet partout parce que vous l'avez perdu. Vous avez perdu une montre à laquelle vous tenez de votre grand-père ou quelque chose comme ça. Vous pouvez avoir l'attachement, c'est fort. Une maman avec son enfant, dès qu'il est venu au monde, c'est pas de l'amour, c'est un attachement très fort. Et donc, en fait, il faut pas sous-estimer ça. Par contre, ça prend du temps. Pour avoir de l'attachement avec un chien, il faut d'abord créer une relation de confiance et de respect dans les deux sens. Sans confiance, il n'y a pas de respect. Sans respect, il n'y a pas de confiance.
Et ça met du temps.
Oui, ça met du temps. C'est comme avec une personne. Donc ça se construit. Ça se construit en étant bienveillant et en apportant un cadre à cet animal, comme un enfant. Sans cadre, ça ne fonctionne pas. En mettant un certain nombre de contraintes. D'accord, en étant bienveillant, comme dire à un enfant d'aller se brosser les dents avant d'aller au lit, de se laver les mains avant de manger, de dire bonjour, merci, au revoir. Ça, c'est la partie éducation. Et après, vous avez la partie apprentissage chez l'enfant, la lecture, comment on se brosse les dents, voilà, etc., comment on fait sa toilette, des choses comme ça, qui est la partie apprentissage quand on va à l'école, lire et écrire. Et ça, c'est la partie dressage chez le chien. Dès l'instant que vous apprenez un chien à marcher au pied, vous le dressez, quelle que soit la méthode employée. Que ce soit avec de la croquette, un cliqueur, ou alors avec un petit collier, une laisse, etc. Vous êtes dans le dressage. Parce que vous êtes dans l'apprentissage. C'est l'apprentissage de faire quelque chose. Comme un chien de stupéfiant, un chien de recherche d'explosifs, etc. Ou pour le cancer. C'est un apprentissage.
Il y a des échecs, des fois.
Comment ?
Il y a des échecs, parfois.
Oui, vous avez des gens qui. Si vous n'avez pas la méthode appropriée à un chien, vous n'allez pas avoir un beau résultat. Il faut prendre en compte tout un tas de paramètres. La sensibilité du chien.
Il y a des règles
d'or. On va dire qu'il y a des règles d'or. On frappe jamais un chien. C'est très important. Et hurler, ça sert à rien. Donc voilà, il faut avoir. Quand on est obligé de monter ton, il faut que ce soit un ton ferme, mais je dirais plutôt froid. Et on frappe pas un chien, même avec un journal. Souvent, j'entends parler. J'ai roulé un petit journal pour le sanctionner, etc. Même ça, faut pas le faire parce que ce qui compte, c'est l'intention. Donc dès l'instant qu'on, parce qu'un chien, c'est solide. Hein, ça, si on va par là, frapper un chien, c'est lui donner, lui faire passer un mauvais message et lui donner un mode de fonctionnement. Si vous fonctionnez dans une violence relative, même si c'est avec un journal ou un torchon, ou encore pire si c'est avec un objet qui ferait mal au chien, si vous voulez, vous allez lui donner un mode de fonctionnement. Donc le chien battu mord rarement son maître, contrairement à ce qu'il se raconte, mais par contre il va mordre ce qui est moins fort que lui, plus faible, plus fragile. Donc un enfant ou la femme du foyer qui serait moins autoritaire, je l'ai vu fréquemment, hein, faut le dire. Hein. Et donc en fait, si vous voulez, l'esprit, c'est d'apporter, c'est toujours un problème de la confiance, oui, du respect. Je respecte mon animal, je dis quand je ne suis pas d'accord, mais je le respecte. Et ça ne veut pas dire pour autant que je dois faire
pas
l'anthropomorphisme.
Dominant, hein, quoi. Voilà,
il ne faut pas non plus tomber dans l'anthropomorphisme, c'est assez délicat. Ouais. Vous avez des gens qui tombent dans l'anthropomorphisme et puis ils vont traiter un chien comme un enfant. Et ça, c'est une grave erreur, c'est une très très grave erreur. Et ça, et c'est de là que naît la plupart des accidents d'ailleurs. C'est à dire, ah oui, mais vous comprenez, c'est mon chien, non, ce que vous faites, c'est pas bien. Et en fait, on se retrouve avec un effet pervers, avec un chien qui quand on veut descendre du canapé, vous montez gros.
Alors, en compétition, ça se passe comment? Donc, vous êtes engagé, les jeunes saisons, ça marche de quand en quand? Vous êtes engagé partout, dans tous les coins de France?
Alors, cette année, c'est un petit peu particulier, parce qu'on
en fonction de la météo,
avec nos responsables qui ont supprimé notre sélectif et notre finale de manière unilatérale, parce que le président de la SCC s'était fait siffler par 200 personnes. Ouf. Donc, il a sanctionné toute la France. Voilà, donc ça, c'est la démocratie de la SCC qui est pas terrible. Et ensuite, bon, ça, ça a été dit.
Et en fait, faut le dire, il n'y a pas de problème.
Oui, faut le dire. Ouais, je suis pas d'accord avec eux, ça d'ailleurs. Et en fait, sur cette sanction injuste. Et en fait, si vous voulez, on a des concours à faire dans l'année. Quand on est au niveau en N3, vous devez faire 5 concours qui vous à plus de 340 points de moyenne sur 400. On prend les 30 meilleurs de chaque région et ils accèdent au sélectif du championnat de France. Là, vous avez 3 concours à passer. Ces 3 jurys se déplacent dans toute la France, dans 8 régions. Et la moyenne de ces 3 concours que vous allez faire, ils vont prendre dessus les 28 meilleurs pour aller en finale. C'est très difficile d'y aller. Le niveau est très élevé en ligne, très très élevé. On a beaucoup de gens très très compétents sur le territoire français, des gens qui travaillent très bien, qui sont très performants, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Vous avez de très bons amateurs, de très bons pros et des amateurs pas très bons et des pros pas très bons. Mais ils sont que ces gens-là se qualifient pour la finale. Et le championnat de France, c'est la fête du chien qui se passe en général au mois de juin. Mais là, il y a un problème. Cette année, il y en aura pas. Ça sera pas au mois de juin, c'est sûr.
D'accord. Donc, c'est un jury spécialiste qui juge, qui note ce qu'on peut appeler les différentes figures, quoi.
Alors, tout est réglementé, entre guillemets. C'est-à-dire que tout est bien fait, dans le sens où les hommes d'attaque sont licenciés, les chiens sont licenciés, les conducteurs sont licenciés. Tout le monde a une licence avec des critères de santé, critères de déontologie, etc., etc. Le matériel employé est normé, donc ça veut dire qu'on n'emploie pas le matériel que l'on veut. Le principe, c'est donc durer le courage du chien, sa vitesse, sa souplesse, mais c'est pas de le blesser, c'est pas de lui faire mal. Tout est normé, si vous voulez. Tout est, depuis très longtemps, nous, on a pris en compte le bien-être animal. Quand vous devez construire un chien pour aller au niveau sur 3-4 ans, vous n'avez pas envie de le détruire à la première compétition qui arrive. Hein. C'est un investissement qui est de plus de 10 000 euros. D'accord. Donc quand vous avez investi 10-15 000 euros sur 3-4 ans, vous n'avez pas envie de briser une saison de votre chien. Et souvent, en plus, il y a des liens très forts qui se créent avec votre chien. Vous aimez votre chien. Très fort. Lui, c'est attaché à vous, mais vous l'aimez très fort. Et donc, c'est pour ça que le fait de ne pas avoir de filiale cette année, ça nous a mis un peu en colère.
Ouais. Donc le jury, il note. Et est-ce qu'il y a beaucoup d'injustices, d'après vous? Est-ce que ça arrive parfois?
Il y en a. De toute façon,
un peu comme le patinage.
Alors, le problème, c'est que si vous voulez, nous, on a un système qui est pyramidal et on n'élit pas les gens qui sont de la pyramide. Donc en fait, ils vont nommer des gens en dessous d'eux. Donc même si nos juges ont un super cursus, qu'on dû faire du chien, qui sont des gens qui savent de quoi ils parlent. Le problème, c'est que, étant donné que c'est des nominations, ça pose problème parce que ces gens-là peuvent se permettre de tricher à un moment donné. Il n'y a personne qui va leur taper sur les doigts. Et bon, ça permet à certaines personnes de passer à travers les mailles du filet et pas d'avoir été sélectionné à la loyale. C'est un problème, mais ça, je pense que c'est plus un problème humain. C'est un problème qu'on rencontre partout. Peut-être plus en ce moment chez nous, parce qu'on n'a pas cette démocratie qui permettrait de nettoyer régulièrement, de se séparer des gens qui ne respectent pas les autres. Voilà.
Et vous avez des titres de champion de France, champion.
Moi, j'ai entraîné des chiens, notamment avec des champions de France, mais moi, je ne
l'ai jamais fait. Mais j'étais en finale de la force athlétique. Hein, c'est un jour, il y a un titre de champion, vous venez le revoir.
Moi, plutôt une carrière d'entraîneur. Donc, si vous voulez, j'ai été moi-même en finale, mais j'ai entraîné les chiens pour toutes les finales. Et bon, et j'ai eu des chiens qui ont été champions de France dans différentes disciplines, mais c'est que j'ai entraîné. Mais c'est, j'ai plutôt voué ma carrière sur les autres que sur mes propres chiens. Je reconnais que ça, j'adore monter un chien, je le mets au niveau, et puis je suis pas tellement passionné pour moi-même pour la performance avec mon chien. Voilà. C'est pas, j'aime bien quand les autres réussissent.
Et en dehors de votre, en dehors de la France, votre sport, il est connu où dans l'Europe,
dans le monde entier? Pratiqué dans le monde entier, mais pas à notre niveau. Si vous voulez, quand on fait une compétition internationale, bon, bah, y a un gros écart. Ouais. C'est très, pourtant, le Mexique, par exemple, qui se sont bien démenés, les Américains. Là, dernièrement, bon, y a des Russes que je crois qui ont essayé de s'y mettre. Il y a tout un tas de pays, les Espagnols, les Marocains. Il y a tout un tas de pays qui essayent de s'y mettre, mais c'est pas facile pour eux, si vous voulez. Il y a besoin d'une telle expertise, donc on va faire des séjours même dans les dom-toms partout, etc. On va faire des séjours de 3 semaines, 15 jours, avec des gens qui vont partir à droite à gauche pour essayer de dispenser nos connaissances. Mais c'est quand même difficile. En 15 jours, vous apprenez pas grand-chose quand on pense que ça se compte en années.
Et les chiens et chiennes, c'est mâle femelle, hein. Il n'y a pas
Il n'y a pas de catégorie comme vous que j'écoutais tout à l'heure. Donc c'est mâle et femelle mélangés et poids mélangé. Vous pouvez avoir une chienne de 22 kilos et un chien de 45 kilos ou 50 kilos.
D'accord.
J'entraîne le meilleur rottweiler de France, là, qui est champion de France dans les rottweilers. Et ben lui, par exemple, il fait pas loin de 50 kilos, 45-50 kilos. Et puis j'entraîne des petites femelles malinoises qui font 25 kilos. Et paradoxalement, les petites femmes de 25 kilos, elles envoient du lourd, comme on dit.
Bon, Stéphane, on va rappeler où est votre centre et on peut venir vous voir à tout moment. Il est donc à Olainville, sur la route d'Arpajon, c'est ça. C'est pas très loin d'ici.
Je voulais faire une dernière petite parenthèse. En ce moment, il y a les élections de la SPA.
Oui.
Et il y a une personne qui va se présenter. Dans la vie, on n'est pas ce que l'on dit, on est ce que l'on fait. Donc, pour être crédible, il faut dire ce que l'on va faire et faire ce que l'on dit. Voilà. Et il y a une personne qui ne vient pas du tout de mon milieu et qui n'a pas du tout la même culture que la mienne, mais avec qui on arrive à discuter. Et ça, c'est très important d'avoir des gens de dialogue en face de nous. C'est ce qui manque un peu des fois. Ce sont les extrêmes qui s'expriment le plus et c'est dommage, il faudrait plus parler avec les modérés. Et il s'appelle Thierry Bédossa et il se présente aux élections de la SPA et je pense que ça peut être une bonne chose parce que la SPA a besoin d'être réformée. Et pour plein de raisons, donc on ne va pas débattre là-dessus, c'est pas le lieu. Mais je pense que cette personne peut être une chance pour la SPA. Et pourtant, il ne vient pas du tout de mon milieu, on n'a rien à voir. Moi, il n'est pas du tout dans l'utilisation. Mais je pense que c'est quelqu'un avec qui on peut vraiment dialoguer, discuter et qui a fait déjà de grandes choses pour la défense animale.
Voilà. Verdict quand ?
Pour
l'élection ?
C'est au mois de juin.
C'est sous peu.
Ouais, dans 3 semaines, je crois.
D'accord. Allez, la pub, la musique, et ensuite on va conclure cette émission bien remplie ce matin.
À Rambouillet, 14 bis rue Chasles, SMA Fenêtre, votre spécialiste de la menuiserie extérieure, vous invite à venir découvrir son showroom et toute sa gamme de fenêtres. Store, volet, porte et porte de garage. Sur mesure, en PVC, bois ou aluminium. SMA Fenêtre vous propose des produits adaptés à vos besoins pour isoler, chauffer votre maison tout en réalisant des économies. Alors, pour un devis gratuit, contactez votre spécialiste SMA Fenêtre, 14 bis rue Chasles à Rambouillet, au 01 30 88 62 32.
LED Pro France, des compagnons électriciens de Rambouillet. Des problèmes d'électricité ? LED Pro France. Besoin d'un dépannage, d'un conseil électrique ? LED Pro France. Une installation électrique ou d'éclairage LED ? LED Pro France. Une rénovation électrique de maison, commerce, industrie, particulier ou professionnel ? LED Pro France. LED Pro France, c'est une équipe avec un savoir-faire familial, toujours professionnel, avec une garantie décennale. LED Pro France, votre partenaire électricien proche de vous, c'est une équipe de compagnons électriciens qualifiés sur Rambouillet et sa région. Plus d'informations sur ledpro-france.com.
Bienvenue au Savoyard, 46 rue d'Angivillers à Rambouillet. Depuis 30 ans, le restaurant Le Savoyard propose une cuisine traditionnelle française et aussi des spécialités savoyardes. Le tout fait maison. Alors pour un moment convivial entre amis ou en famille, votre restaurant Le Savoyard vous accueille du mardi au samedi soir. Le Savoyard, 46 rue d'Angivillers. Téléphone 01 34 83 35 77.
RVE, vivez votre région. RVE 103.7.
le sport dans votre région avec RVE.
Voilà, bah écoutez, merci de nous avoir été fidèles. Hein, ce dimanche de Pentecôte, profitez bien de ce week-end prolongé. N'oubliez pas que c'est la finale de Roland-Garros cet après-midi. Merci encore donc à Stéphane Renaud.
Bah, hein, merci.
À très bientôt.
Merci de m'avoir accueilli. Hein, c'est avec plaisir que je suis venu.
Et puis, bah, on va aussi souhaiter bonne chance à Patrick, Michel et Philippe. Et puis, c'est promis juré, ramenez-nous des médailles et des titres. OK, messieurs ?
Merci.
On fait le maximum. Voilà, merci beaucoup, RVE. C'est sympa.
Et voilà, la voiture vous attend pour partir sur l'aéroport. Allez, merci à Arthur d'avoir été ce matin exceptionnellement aux manettes. Hein, et puis on se retrouve la semaine prochaine, 10h-11h. Bon dimanche à tous et à toutes. Salut.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport avec Philippe Carnu.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour. Peur sur la finance, risque majeur, impact négatif, inquiétude. Les ministres des Finances et les banquiers centraux des pays du G20 se sont réunis ce week-end au Japon avec anxiété en constatant les tensions commerciales et leurs retombées sur l'économie mondiale. Seule petite voix dissonante, celle des États-Unis, persuadés que l'offensive qu'ils mènent contre la Chine sera salutaire pour tout le monde, à condition bien sûr qu'elle débouche sur un accord. Mais les grands argentiers craignent une escalade de cette guerre des échanges. Le ministre japonais Taro Aso, qui préside cette réunion à Fukuoka, a mis en garde cette nuit contre une érosion de la confiance des marchés si l'incertitude persistait. Tranchante avec ce pessimisme, Washington et Mexico semblent baignés dans le bonheur après l'accord conclu hier sur l'immigration. Un accord trouvé sous la menace américaine de taxer tous les produits mexicains dès demain si le Mexique ne faisait pas de gros efforts pour contenir les méchants migrants. Donald Trump